Bienvenue pour cette séquence autour de Lazare, Marthe, Marie, Jésus et une foule de témoins. Donc aujourd'hui, on va attraper le chapitre 11 de l'Évangile selon Jean. C'est un chapitre qui n'apparaît que, enfin c'est un épisode qui n'apparaît que dans l'Évangile de Jean, ça présente déjà un intérêt en soi. Et c'est le dernier épisode de l'évangile de Jean avant la séquence de la Passion. Donc en fait, c'est un peu comme la porte d'entrée dans le récit de la Passion de Jésus. Quand dans quelques jours, vous allez réfléchir à ce que signifie Pâques, vous pourrez comme ça penser à Pâques à la lumière de cet épisode-là. Alors, le mieux, c'est de commencer par en prendre connaissance. Vous ne l'avez peut-être pas forcément lu, donc je vous ai préparé le texte en grec sur la gauche, en français de la version Louis II à droite. Je crois que c'est une seconde révisée 70, donc à un moment donné, vous verrez, il y a une petite formule grammaticale sympathique. Ce que je vous propose, c'est qu'on commence par se répartir un peu la lecture. Si certains se sentent appelés à lire. Allez-y, Catherine. Oui, allez-y, Catherine. Donc, chapitre 11.
Un homme appelé Lazare tomba malade. Il habitait Béthanie, le village où vivaient Marthe et sa sœur, Marie et sa sœur Marthe. Marie était cette femme qui répandit du parfum sur les pieds du Seigneur et les essuya avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les deux sœurs envoyèrent quelqu'un dire à Jésus, « Seigneur, ton ami est malade. » Lorsque Jésus apprit cette nouvelle, il dit, « La maladie de Lazare ne le fera pas mourir. Elle doit servir à montrer la puissance glorieuse de Dieu et à manifester ainsi la gloire du Fils de Dieu. » Jésus aimait Marthe et sa sœur ainsi que Lazare. Or, quand il apprit que Lazare était malade, il resta encore deux jours à l'endroit où il se trouvait. Puis il dit à ses disciples, « Retournons en Judée. » Les disciples lui répondirent, « Maître, il y a très peu de temps, on cherchait à te tuer à coups de pierre là-bas, et tu veux y retourner ?» Jésus leur dit, « Il y a douze heures dans le jour, n'est-ce pas ? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne trébuche pas parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il trébuche parce qu'il n'y a pas de lumière en lui. » Après avoir dit cela, Jésus ajouta, « Notre ami Lazare s'est endormi, mais je vais aller le réveiller. » Les disciples répondirent, « Seigneur, s'il s'est endormi, il guérira. » En fait, Jésus avait parlé de la mort de Lazare, mais les disciples pensaient qu'il parlait du sommeil ordinaire. Jésus leur dit alors clairement, « Lazare est mort. Je me réjouis pour vous de n'avoir pas été là-bas, parce qu'ainsi vous croirez en moi. » Mais allons auprès de lui. » Alors Thomas, surnommé le jumeau, dit aux autres disciples, « Allons-y, nous aussi, pour mourir avec notre maître. »
Très bien. Est-ce que quelqu'un pouvait prendre la suite à partir du verset 17? Oui, bien sûr.
Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?»
Si... quelqu'un prend la suite.
Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. » Ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, « Le maître est ici, il te demande. » Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs étaient... Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vue se lever promptement et sortir, la suivirent, disant « Elle va au sépulcre pour y pleurer ». Lorsque Marie fut arrivée, là où était Jésus, et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort ». Jésus la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit « Où l'avez-vous mis ?»« Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. » Sur quoi les Juifs dirent « Voyez comme il l'aimait. » Ah oui, Jésus pleura.
Ouais, ça compte. C'est rare.
Ouais.
Jésus pleura. Ça... Pour votre voisine de gauche, ça compte.
Sur quoi les Juifs dirent « Voyez comme il l'aimait. » Quelques-uns d'entre eux dirent « Lui qui a ouvert les yeux de la veuve, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point ?» Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit « Ôtez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit « Seigneur, il sent déjà car il y a 4 jours qu'il est là. » Jésus lui dit « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. » Et j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. »
Bien. Alors, quel titre pour ce passage, d'après vous? Comment est-ce que vous intituleriez ce passage? Il n'y a pas de mauvaise réponse. Debout le mort, c'est le jour de la marmotte. Donc, debout le mort.
Je suis la résurrection et la vie.
Donc, je suis la résurrection et la vie.
Lazare vivant.
Lazare vivant.
Jésus qui pleure.
Jésus pleura. Réveille-toi. La visite. Ça dédramatise un peu la visite. Ça calme le jeu. Bon, très bien. Donc, pas de gros termes de la religion en termes de résurrection, etc. Très bien, entendu. On va voir qu'il y a un verbe qui est dans la bouche de Jésus qui pourrait peut-être être utilisé dans le titre, mais on verra ça dans le cours de notre traversée de ce texte. Bien, alors on va prendre le texte dans son aspect synchronique, c'est-à-dire verset après verset, et on va essayer de le faire parler, ce texte. Et pour vous dire les choses clairement, je pense que c'est le texte de l'évangile de Jean qui se prête le mieux à la lecture la plus symbolique qui soit. Donc je suis prêt à affronter toutes vos résistances sur une lecture symbolique. D'abord parce que pour moi, ce sera le moment le plus facile pour justifier une lecture symbolique. Donc ça, c'est mon côté, je rentre de vacances. Et d'autre part, parce que... on verra qu'une lecture symbolique de ce passage est la lecture qui offre, à mon avis, le plus de sens à notre vie, indépendamment du texte. Bien, on commence par un homme malade. Bon, jusque-là, rien de bien particulier, si ce n'est que c'est quand même intéressant de voir ce qui se passe dans le texte grec. Et c'est la racine qui donne le terme asthénique. Hein, c'est l'asthénie. C'est un homme malade, mais il est asthénique. Qu'est-ce que ça nous dit de cet homme, qu'il soit asthénique, dans notre inconscient français ? Passif.
Silencieux.
Mou, voilà, oui. Pas très énergique. Donc, vous voyez, c'est important parce que notre traduction française a tendance à supprimer cet aspect des choses. Malade, c'est, bon, voilà, il a une bactérie, un virus, un cancer, tout ce que vous voulez. Là, clairement, on se place sur quelque chose qu'on pourrait dire un peu de l'ordre du psychique. C'est une sorte de manque d'énergie. Il y a un rapport de passivité à la vie. On a utilisé le terme passif. Une sorte de silence par rapport à la vie. Vous voyez, une sorte d'arrêt, une sorte de coup d'arrêt. Quelqu'un qui est un peu brisé dans son élan. Le terme malade est quand même très général et très générique et ne rend pas bien compte de cette richesse de la langue grecque, capable de finesse.
Donc il n'était pas mort.
Donc à ce moment, il n'est pas mort, il est asthénique. Et c'est un terme qui va revenir plusieurs fois. Hein. Quand on parle de maladie, on va parler d'asthénéia. Bien. Un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. Donc en fait, c'est une fratrie. Lazare, Marthe, Marie, son frère et sœur. Marthe et Marie, on en a entendu parler il n'y a pas très longtemps parce qu'on connaît l'épisode de Marthe qui est à la cuisine et Marie qui est au pied de Jésus. On va la retrouver, Marie, au pied de Jésus encore. Et d'ailleurs, on rappelle que c'est cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuyait les pieds avec ses cheveux, et c'était son frère Lazare qui était malade. Alors là, vous avez le texte extrait de la Bible, mais prenez la Bible, si vous en avez une, et allez voir ce qui se passe au chapitre 12 de Jean. Oui, de Jean. Jean, chapitre 12. Là, on est au chapitre 11. Hein. Donc, chapitre 12, on est à Béthanie. Et c'est là qu'on a l'épisode du parfum. C'est un petit peu étonnant quand même. On dit que l'épisode suivant a déjà eu lieu. Bien. Alors, deux possibilités par rapport à cet événement un peu étonnant qu'on trouve dans le texte, une sorte de retour vers le futur. Soit c'est qu'il y a eu une autre onction. Donc il y a eu un épisode au préalable où Jésus aurait eu les pieds recouverts de parfum, etc. Ce que laisse entendre l'évangile selon Luc d'ailleurs. Quand il parle d'une femme qui fait cette chorégraphie autour des pieds de Jésus, avant l'épisode de Béthanie qui précède la célébration de la scène. Donc il y a peut-être deux fois où Jésus a du parfum répandu sur ses pieds. Ou alors, il y a là un indice sur le fait que nous ne sommes pas dans un récit qui aurait une prétention de récit historique, qui reprendrait les faits tels qu'ils se sont réellement passés dans la matérialité des faits, mais nous avons un texte qui donne à penser, qui cherche à produire du sens. Donc, c'est cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur. Il y a une autre possibilité, une troisième possibilité, c'est que cette phrase, en fait, annonce ce qui va se passer. C'est une façon de relier cette Marie à la Marie dont on va encore parler dans un chapitre. Une sorte de prolepse, un antécédent. Oui, Paul.
Est-ce que le parfum ne serait pas le symbole ou représenterait un espèce de médicament pour réveiller Lazare?
Alors là, le parfum est uniquement rapporté à Jésus. L'idée, c'est plutôt que le parfum serait utilisé pour embaumer le corps du mort. Donc, ça serait plutôt pour maintenir le cadavre dans un bon état, plutôt que pour... C'est pas comme les sels, en fait, pour ranimer quelqu'un qui s'est évanoui. Le parfum dans l'onction à Béthanie évoque plutôt l'embaumement, une préfiguration des soins que les femmes vont vouloir apporter le dimanche de Pâques.
Ça, ça dit quelque chose aussi sur le caractère de Marie.
Oui, alors.
Si on se réfère à l'épisode de Marthe et Marie, où Marie vient écouter le Seigneur tandis que Marthe reste, et ça, c'est une femme, c'était plus que Dieu, enfin, elle avait un caractère presque mystique, enfin, je ne sais pas.
Elle était une contemplative, là où sa sœur Marthe serait plutôt une active, c'est ça? Non.
Le fait qu'elle dépense certainement beaucoup d'argent pour s'acheter. Pour acheter ce parfum, ça donne un sens à son acte, si vous voulez. Et je trouve qu'on devrait rapprocher ça quand on parle de l'épisode où Jésus dit à Marthe, mais Marie a choisi la bonne part. Ça veut dire qu'elle avait quelque chose en elle de très profond, de très mystique déjà, qu'on retrouve dans d'autres.
Mais on va voir que dans cet épisode-ci, il n'y a pas un si grand décalage que ça entre les deux sœurs. C'est un euphémisme, parce qu'on va même voir qu'il y a un effet miroir, qu'il y a un petit problème d'ailleurs entre les deux. Mais je crois que Lazare a un petit problème aussi. Mais certainement, il y a une psychologie différente entre Marthe et Marie. Donc, parler de la piété de Marie est tout à fait approprié, évidemment. Mais c'est vrai que c'est plutôt dans l'épisode où elles sont chez elles que c'est d'autant plus sensible. Là, ça fait quand même allusion. Et on a Marie qui, à un moment donné, est nommée assise, ce qui effectivement peut laisser entendre qu'elle est moins entreprenante que sa sœur Marthe. À voir. Mais on pourrait effectivement faire une étude sur les psychologies religieuses de ces deux personnages. Qui sont deux figures archétypales, en fait. Deux figures archétypales de nous-mêmes, individuellement. Hein, ce sont deux pôles qui sont en tension en chaque personne, et plus ou moins pondérés.
On ne peut pas penser qu'il y a eu une inversion de texte, à un moment quelconque, entre ce passage du chapitre 11 et... Chapitre 12.
C'est-à-dire que dans le chapitre 12, on a quand même la mention de Lazare qui a été ressuscité. Donc, dans le chapitre 12, il est clair que le chapitre 11 est avant. Oui. Maintenant, vous savez, la numérotation des chapitres, ça intervient au Moyen-Âge. Donc, il y a peut-être effectivement un passage qui a été décalé et il y a une suture qui apparaît d'un côté et pas de l'autre. Oui, vous pouvez demander quelque chose, madame.
Moi, ce qui me semble lourd dans la construction de la phrase, c'est l'assistance avec laquelle on entend, et c'était son frère Lazare qui était malade. Alors, comme on vient de lire sur la phrase précédente, il y avait un homme, Lazare, et c'était son frère Lazare qui était malade. Ça fait un petit peu lourdingue. Il y a une intention, ou bien c'est juste une construction.
En tout cas, il y a une vraie insistance. Après, est-ce que c'est une insistance de qualité sur le plan rhétorique? Je serais bien incapable de vous dire sur le plan stylistique grec si c'est une légèreté, si c'est élégant ou si c'est lourdingue. Mais en tous les cas, c'est un signe que ça insiste. Ça insiste plutôt sur la maladie de Lazare. Et sur le caractère fraternel. Ça insiste sur ces deux points. Ils sont liés, tous les trois, et il y en a un qui est malade. Et il y a peut-être cette idée selon laquelle il y en a un qui est malade, les deux autres ne sont pas forcément en bonne santé non plus. Vous voyez, une sorte de cercle vicieux, en fait. C'est un peu ce que va montrer le texte pour vous déflorer la suite. Et sera ressuscité pas forcément que celui auquel on pense. On est tous des névrosés. On est tous pécheurs. Et eux particulièrement bien, quoi. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade. » Alors, vous savez qu'il y a plusieurs façons de parler de l'amour dans la langue grecque. Ici, c'est la philéia. Hein, donc, on ne dit pas que Jésus aime Lazare d'agapé. On ne dit pas non plus qu'il l'aime d'éros. On dit qu'il l'aime de philéia. Donc, c'est l'amitié. C'est l'amitié avec la réciprocité. Petit à petit, nous construisons une relation faite d'échanges positifs. Et donc, Jésus, vous voyez, est dans un rapport à l'autre qui est très humain. Hein. C'est cette amitié que nous-mêmes, nous connaissons, qui est un des vecteurs de l'agapé, cet amour-grâce dont on parle notamment dans l'épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 13. Donc, Jésus va être au courant de la maladie de notre Lazare. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire, Lazare ? C'est Eliezer, en hébreu.
Dieu aime.
C'est pas Dieu aime, tout à fait, c'est...
C'est Dieu aide.
Dieu aide. Dieu secours, Dieu aide, du verbe aider. Quand il y a Lazare et l'homme riche, c'est une parabole. C'est intéressant parce que c'est une façon de rappeler que ce pauvre qui est à la porte du riche, ce pauvre qui est sur le seuil, en fait, était là pour venir en aide à l'homme riche. C'était pas, on n'attendait pas que l'homme riche aide le pauvre, le miséreux en fait, c'est un misérable. C'est le misérable qui était là pour aider l'homme riche. Mais l'homme riche n'a pas saisi le secours divin qui était à sa porte. Je ferme la parenthèse. Donc Jésus est au courant que celui qu'il aime d'un amour d'équivalence est malade. Et que va-t-il faire ? Que va-t-il faire ce Jésus, ce Messie ? Qu'est-ce qu'on attend qu'il fasse ?
Qu'il y aille.
Qu'il y aille. Et il n'y va pas.
Il attend deux jours.
Et il va différer son retour. Alors pourquoi est-ce qu'il n'y va pas, ce Jésus si beau, si bon ?
Pour dire qu'il ne répond pas à toutes les demandes comme ça.
Oui.
Pour dire qu'il peut agir à distance.
Et pour témoigner ensuite de...
Donc, il y a cette idée selon laquelle il va laisser mourir son ami pour mieux montrer qu'il est fort et puissant. Ça, c'est bon. C'est ce qu'on appelle une instrumentalisation de l'autre, une objectivation. C'est un peu moche sur le plan moral. C'est pas tout à fait ce qu'on attend du Messie. C'est dit comment dans le texte ? Reprenons le texte. Après avoir entendu cela, Jésus dit « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Donc, effectivement, dans un premier temps, on peut se dire, bon, ben, Jésus est au courant qu'il ne va pas mourir, donc il n'y a pas urgence, il n'y a pas matière à s'inquiéter. Et il va même pouvoir, en quelque sorte, montrer quelque chose du divin. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. On rappelle ce lien d'affection. Il n'est pas indifférent, en plus. Hein. C'est pour insister sur le fait que, si vraiment il n'y va pas, c'est que c'est délibéré chez lui.
Est-ce que dans le texte grec, il y a l'équivalent de « or » ?
De quoi ?
Oui, c'est le « dé ». Il y a une conjonction, disjonction, quoi. C'est plutôt une disjonction, d'ailleurs, le « dé ». Il y a... Ça peut être traduit par « or », ça peut être traduit par un petit « mais ». Ça peut être traduit par quelque chose qui dit que les deux sont raccordés en tension. Ce n'est pas une conjonction de coordination, c'est plutôt relié en gardant en tension. Une petite opposition, vous voyez ? Pourtant, cependant... Mais, donc, on a entendu, cette maladie n'est point à la mort. Donc, en grec, c'est « oukestin, elle n'est pas, pros, donc, pour Thanaton, la mort ». Elle n'est pas destinée à la mort. Ça ne doit pas conduire à la mort. Autrement dit, le pronostic vital n'est pas engagé. Mais, lorsqu'il eut appris que Lazare était malade, il restait encore deux jours dans le lieu où il était, ça a été rappelé. Et puis, un peu plus loin, au verset 11-12-13, Après ces paroles, il leur dit « Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller ». Donc on peut se dire « oui, effectivement, c'est une maladie qui l'a fatigué, il avait besoin de se reposer, c'est pas mortel ». Les disciples lui dirent « Seigneur, s'il dort, il sera guéri ». Donc voilà, tout va bien se passer, ça va rentrer dans l'ordre. Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Vous voyez, il y a un malentendu, comme souvent chez Jean. Jean travaille beaucoup sur les malentendus. Et donc, on était parti sur « Cette maladie n'est point la mort » au verset 4. Et là, au verset 13, « Jésus avait parlé de sa mort ». Et c'est toujours « Thanatos ». Thanaton.
Oui, mais c'est parce que le verbe dormir, ça évoquait aussi la mort.
Oui, c'est-à-dire que ça pouvait être soit une métaphore de la mort,
oui.
Le fait d'être couché aussi était une métaphore de la mort. Oui. Mais dans un premier temps, il dit « c'est pas destiné à la mort », et dans un deuxième temps, il semble dire « c'est de mort dont il est question et pas d'endormissement ». Oui, il y a une difficulté là. Donc il va falloir qu'on mette à jour ce qui est en jeu et voir à quel niveau se situe la mort ou le sommeil. Bon, toujours est-il que Jésus diffère son retour. Alors, est-ce que vous avez une idée de la raison pour laquelle il refuse de rentrer précipitamment en quelque sorte auprès de Lazare ? Là, une fois de plus, toutes les réponses sont les bienvenues. Les réponses sont un peu dans le texte, d'ailleurs.
Géographiquement, c'est quoi par Jésus, quand il dit « retournons en Judée », il est où, à ce moment-là ?
Eh bien, ouais. Alors... C'est-à-dire que donc Béthanie, c'est en face de Jérusalem. C'est-à-dire que si vous avez l'idée de Jérusalem, comment je vous simplifie ? Je vais prendre ça.
À la fin du chapitre 10,
il
est retourné de l'autre côté du Jourdain.
Ouais.
Oui, c'est ça.
C'est la Jordanie, hein, l'autre côté du Jourdain. Non, mais c'est pas c'est la Transjordanie, c'est pas la Cisjordanie. Donc c'est l'actuelle Jordanie. Donc imaginez que là vous avez Jérusalem. Donc le nord et le sud. On a, disons, le temple qui est par là. Et là, il y a la vallée du Cédron. Et en face, il y a le mont des Oliviers. Et Béthanie est un peu plus loin.
À l'est.
Voilà. L'est, c'est par là, pour eux. Pour eux, l'est est par là. Donc c'est après le mont des Oliviers, c'est 5-6 kilomètres, hein, grosso modo. Et si vous continuez, à un moment donné... vous allez arriver sur le Jourdain et puis la mer Morte en dessous. Et le lac de Galilée est ici, au nord. Et donc, le fait d'être de l'autre côté du Jourdain, donc vers Petra, etc., c'est être en Transjordanie, dans les textes bibliques, l'actuelle Jordanie, donc, comme je disais. Et la Judée, c'est tout le territoire autour de Bethléem, Jérusalem. Si on va au nord, on arrive dans ce qu'on appelle la Samarie, avec Sichem, notamment. Aujourd'hui, ça serait la ville de Naplouse. C'est là où sont les Samaritains, donc le royaume du nord. Puis si on monte encore plus, il y a la Galilée. Si on descend, on va arriver dans le désert du Négev. Et plus bas, il y aura ici la mer Rouge, et ici l'Égypte. Voilà. Et nous, la France, on est par là. Ça marche. Pourquoi est-ce... Alors, donc, on a évoqué le fait de ne pas retourner en Judée. Pourquoi est-ce qu'il ne retournerait pas en Judée ? Ça, c'est dans le texte. Et pourquoi est-ce qu'il ne retournerait pas auprès de Lazare ? Ça, c'est plutôt à imaginer. Là, il faudrait...
Les disciples étaient ravis, les Juifs, tout récemment, cherchaient à l'appeler.
Voilà. Donc, c'est une mesure conservatoire. C'est que ça avait quand même un peu mal fini, les épisodes précédents. Et donc, retourner en Judée, c'est un peu se jeter dans la gueule du loup. On va y revenir. Néanmoins, pour un ami, est-ce qu'on n'irait pas prendre quelques risques ? Surtout s'il est malade, de façon sérieuse.
Il a une mission
supérieure. Ouais. D'un côté, il va y retourner quand même. Alors la mission supérieure, c'est bizarre. Oui. D'accord. Donc une façon de résister un petit peu. Donc il y a d'un côté l'argument qui serait l'argument de la narration, donc le danger de revenir à Jérusalem parce qu'il y a tendu à coup de pierre. Et puis l'autre, c'est parce qu'il y aurait une sorte de pédagogie vis-à-vis de Lazare. Je vais appeler ça tout de suite une sorte de sevrage. C'est-à-dire qu'il refuse d'être considéré comme l'État-providence par Lazare. On va voir ça. Les deux, en fait, sont dans le texte, à peu de choses près. Alors... Oui. C'est peut-être ça, si ce n'est qu'au verset 8, en fait, il dit que son heure est venue. C'est le texte qui est un petit peu étonnant, en fait. Hein. Ça se retourne assez rapidement, en fait. Mais c'est vrai que dans Cana, il y avait une sorte de résistance. Et on avait vu que c'était une résistance à l'ordre de sa mère, mais que cette résistance... Enfin, ça pouvait être interprété comme une résistance ou comme un étonnement. Hein, quand il disait « Mère, qu'y a-t-il entre toi et moi ?», ça pouvait être entendu comme un étonnement de sa part sur le fait que ce qu'elle lui dise soit tellement en harmonie avec ce qu'il pressent. Et pas forcément un effet de résistance de sa part à l'ordre qu'il lui donnait. La preuve qu'on avait donnée, c'est que finalement, elle ne lui dit pas que faire. Et il le fait. Elle dit juste que c'est à lui de jouer, et c'est lui qui invente la suite de l'histoire. Ici, donc, il va commencer par rester deux jours. Donc, il prend son temps. Et il dit ensuite aux disciples, retournons en Judée. Et on ne sait pas pourquoi il dit au bout de deux jours, retournons en Judée. Il n'y a pas d'élément déclencheur. Il ne s'est rien passé de différent pour le lecteur. Mais en fait, il s'est passé quelque chose, c'est que Lazare est mort. On va le voir après. C'est le texte qui est un peu perturbant. Il n'y a pas une continuité. Pourquoi il n'y a pas une continuité? Parce que justement, il s'agit de faire tenir dans un même récit des événements qui se passent dans plusieurs lieux différents. Et donc... on ne peut pas avoir une chronologie suivie linéaire. Et puis, il y a un autre aspect, c'est que on n'est pas dans un récit historique. C'est-à-dire que le texte cherche à mettre en relation des choses qui ne sont pas, qui sont en relation par le sens et pas par le temps. Donc, retournons en Judée. Ça permet aux disciples de dire « Rabbi, les Juifs, tout récemment, cherchaient à te lapider ». Et tu retournes en Judée, et ça va lui donner l'occasion de développer une petite parabole qui est semblable à celle qu'on avait déjà entendue avec l'épisode de l'aveugle guéri. C'est au chapitre 9 de Jean, le verset 4. Est-ce que quelqu'un pourrait nous lire cela pour qu'on se le remette en tête ? Chapitre 9 de Jean, le verset 4. Verset 4 et verset 5.
Que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé, la nuit vient, personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis à la lumière du monde.
Vous voyez, il y a encore cette thématique de la nuit, de la lumière. Si on vous demandait d'expliquer ces versets 9 et 10 là, dans le chapitre 11, cette petite parabole n'est-il pas 12 heures au jour ? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point parce qu'il voit la lumière de ce monde, mais si quelqu'un marche dans la nuit, il bronche parce que la lumière n'est pas en lui. Elle sert à quoi cette parabole-là dans ce texte ? Qu'est-ce qu'elle va faire ici ?
La lumière des yeux et la lumière du cœur, suivant la lumière qui est intérieure.
Ouais. Disons que ce n'est pas que la lumière électrique ou...
La lumière des yeux, c'est pendant le jour. Ça permet de se guider. La nuit.
Il ne dit pas que la nuit on a recours à notre lumière, hein. Il dit que la nuit on trébuche. Hein. Il dit que la nuit, c'est la nuit. Hein.
Oui. Attendez.
Mais c'est pas dans le texte.
Non, ça c'est.
Alors, la création avec il eut un jour, il eut un soir, il eut un matin, et avec les activités diurnes et les activités nocturnes. Et les activités nocturnes, en général, sont les activités des bêtes sauvages. L'activité diurne étant caractérisée par l'activité de l'être humain. L'être humain qui est en fait incapable d'œuvrer au sens de l'œuvre pendant la nuit. Mais il n'y a pas visiblement de stratégie pour pouvoir continuer à être humain la nuit. C'est-à-dire que la nuit reste la nuit. Mais vous aviez une question.
Oui, je voulais savoir qu'est-ce que
vous voulez dire l'étymologie du mot branche. Ah, il ne bronche point parce qu'il voit la lumière de ce monde. Ouais. Proscoptei, proscopto, scopto, scopto, scopto. Je vais laisser Christiane nous dire si on trouve une étymologie intéressante. Ouais, ouais. Il y a le fait d'être, enfin, auprès d'eux, puisqu'il y a pros, et scope, à mon avis, ça doit être quelque chose comme manifester auprès d'eux. On va vérifier ça. On n'utilise pas quoi comme ça?
Broncher. Normalement, tu dis à un gamin, ne bronche pas. Mais là,
est-ce que vous avez d'autres traductions dans vos versions bibliques?
Ouais.
Je trébuche.
Scopto, c'est frappé.
Non, mais c'est scopto. Scope.
Scopto.
Avec un sigma.
Ouais. De toute façon, ça va être effectivement le fait d'être en opposition à quelque chose. Donc, a priori, trébucher, ça pourrait être une traduction. En tous les cas, c'est l'idée selon laquelle, pendant la nuit, notre activité est contrariée. Donc, on n'a pas une vie lisse. La vie est rendue impossible la nuit. Et il n'y a pas de résolution à ce problème. Y a pas dans le texte, là, il n'y a pas une lumière qui viendrait suppléer à ce problème-là, à cette absence de la lumière facile. La nuit, c'est la nuit. C'est fichu. Pas de rédemption.
Scoptaios, ténébreux dans la nuit.
Est-ce que ça fait pas appel à ce que le caractère symbolique
dont
tu parlais tout à l'heure?
Pardon?
Est-ce que ça ne fait pas appel ou référence au caractère symbolique,
ouais,
dont tu parlais tout à l'heure?
Mais oui, parce qu'il n'y a pas d'autre possibilité. Porter quelque chose contre. Heurter quelque chose contre. D'où trébucher ou alors broncher parce qu'il y a une sorte de contrariété, quoi.
Est-ce que c'est pas en liaison avec son ami Lazare qui est dans la nuit?
Oui, en fait, c'est son ami Lazare qui est dans la nuit. Et donc, s'il n'y a pas la lumière, s'il n'y a pas la lumière du jour pour lui, en fait, il ne pourra pas s'en sortir. Et donc, il justifie son retour en Judée en disant: Lazare a besoin de sortir de la nuit. Et je suis celui qui va le faire sortir de la nuit. Celui qui va le faire sortir de la nuit. Anne.
Oui, moi je me demande juste si tout simplement, enfin, il y a souvent une façon assez imagée de parler dans la vie, notamment de la part de Jésus. Et enfin, cette succession comme ça, les 12 heures du jour, le jour, la nuit, c'est impossible parce qu'il dit toujours mon heure est venue, mon heure n'est pas.
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, on va le voir, avec la revendication de Marthe et Marie, on attend de Jésus qu'il soit un guérisseur de malades. Et Jésus va manifestement montrer que ce n'est pas un guérisseur de malades. Mais là où vous avez raison, c'est qu'effectivement, il ne peut pas intervenir sur des situations pour lesquelles il se déclare incompétent. En revanche, à partir du moment où il peut quelque chose, il va être prêt à affronter le danger, parce que le danger de la Judée n'a pas disparu pour autant, mais il ne l'affrontera que parce qu'il sera en mesure de pouvoir apporter quelque chose de neuf. Effectivement, c'est ce que vous disiez un peu tout à l'heure sur, quand vous parliez de l'aspect cyclique de l'asthénique, c'est que... c'est l'hypothèse que je formule là comme ça, qui va peut-être se vérifier au fur et à mesure, c'est que le lien entre Lazare et Jésus est problématique. C'est-à-dire que, pour reprendre le terme de Françoise Dolto, Lazare serait le fœtus et Jésus le placenta. Mais râlez pas, enfin, vous êtes les premières à râler, mesdames, alors que fœtus et placenta, c'est toute votre vie, quoi. Bon, ne dites pas que c'est compliqué, que c'est une abstraction, c'est du vécu. Et bien voilà, on arrive à s'en sortir, c'est exactement ce qui va arriver dans ce texte. Ce texte est là pour dire on arrive à s'en sortir. Et c'est comme ça que ça finit d'ailleurs. Et ouais, bon, on arrive à s'en sortir.
Je l'ai, le proscopto.
Alors le proscopto.
Heurter quelque chose contre.
Heurter quelque chose contre. Très bien, donc c'est ce que vous avez trouvé. Oui.
Choquer et se heurter contre.
Une pierre d'achoppement, oui.
Celui qui s'appuiera
dessus ne branchera pas. Oui. Et là, ce n'est pas rapporté à une personne, mais c'est rapporté à un contexte particulier, qu'il y a des moments où on est dans une situation inextricable, en fait. La nuit. La nuit, c'est aussi la nuit des mystiques, hein, puisqu'on parlait un peu de la dimension symbolique. Donc, je reviens sur l'histoire de fœtus et de placenta. Le fœtus ne peut devenir bébé qu'à la condition que le placenta meure. Et là...
C'est un raccourci, oui.
C'est un raccourci, mais... Ouais. Quand le fœtus devient bébé, le placenta se détache de l'utérus et...
On n'a pas coupé le cordon, ils sont pas liés.
Et Jésus doit mourir pour Lazare. C'est-à-dire qu'il doit y avoir une séparation entre Lazare qui est en train de pomper Jésus. Il doit y avoir une séparation entre les deux. C'est pour ça que François Zolto parle de placenta à l'endroit de Jésus. C'est que Jésus se fait pomper par Lazare. François, une alternative.
Comme l'énergie qui sort de lui quand la femme...
Oui, c'est ça. François.
Il attend qu'il soit complètement mort pour bien lui trouver sa jupe.
François.
Non, moi je trouve que cette image n'a rien à voir.
D'accord.
Oui. C'est comme si je te disais que la lumière intérieure et nuit, c'est un GPS.
Mais ça, c'est pas une lumière intérieure, un GPS, c'est... Très bien, d'accord. Entendu. Alors, vous allez m'expliquer ensuite les deux phrases de Marthe et de Marie. Bon, donc, on a les paraboles sur la lumière, sur la nuit. Ça peut expliquer, en tout cas, que si Jésus retourne en Judée, c'est pour aider Lazare à sortir de la nuit, qu'il a besoin d'une sorte de lumière. Et après ces paroles, il leur dit « Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller ». Bien. Alors là, c'est le moment ou jamais de poser les yeux sur le texte grec et de voir ce que signifie ce terme « réveillé ». Le terme « réveillé », c'est « exupniso », c'est « exupnitzein ». C'est un apax, mais c'est franchement facile, parce que c'est « ex-hypnosis », c'est « hors de l'hypnose ». C'est sortir de l'hypnose, sortir du sommeil. L'hypnose, c'est un sommeil. Mais le verbe, c'est sortir de l'hypnose. C'est le texte qui le dit. Alors là, c'est même pas la peine de contester, c'est dans le texte grec. Et voyez, quand on a tous ces termes qui sont utilisés par rapport à ce texte sur la résurrection de Lazare, etc., ce que Jésus dit, c'est le sortir de l'hypnose. Donc Lazare est hypnotisé. Intéressant. Mais... Oui, oui, mais comme on étudie le texte de Jean, on va s'intéresser à ce que Jean nous dit de cette situation. La question n'est pas de savoir si ça s'est passé comme ça, c'est pourquoi est-ce que Jean nous raconte ça? Et qu'est-ce que ça peut nous apprendre? C'est en ce sens que la lecture symbolique va être autrement plus intéressante et instructive pour nous qu'une lecture historique. Parce que si cet épisode n'a pas existé au sens strict du terme, ça n'empêche que l'enseignement de Jean... demeure. Oui, vous avez une question.
Il nie l'existence de la mort, en fait.
Non, puisqu'il va employer le terme « mourir ».
Oui. Après ça, il dit aux disciples, il est mort.
Il n'est pas là pour soigner ni les morts, il est là pour entrer dans la mort. Enfin, pour...
Eh bien, mon hypothèse, c'est plutôt qu'il va aller contre l'idée platonicienne de l'immortalité de l'âme, par exemple. Jésus va plutôt considérer que l'âme est mortelle. L'âme, pas en tant que... Ça va bien se passer, Françoise. L'âme, c'est le fait que... D'accord. L'âme, c'est quand même un terme un peu courant qui désigne ce moment où l'homme se place devant Dieu. Bon, je sais, Dieu, c'est un mot compliqué aussi, mais je ne veux pas tous les redéployer à chaque fois. Et... que cela peut cesser. Le fait de se tenir devant Dieu, ça peut cesser, ça peut mourir. Et ça peut aussi ressusciter, c'est ce qu'on va voir. Et il est là pour qu'on ne meure pas, ou, dans le cas où l'on meurt, que quelque chose puisse se rétablir. Mais il ne nie pas la mort. Il dit simplement que ce n'est pas le dernier mot de l'histoire. Il dit que ce n'est pas la force ultime. Oui, François.
On en est au verset 12.
Oui. Bah si, on a quand même dit que la maladie n'était pas destinée à la mort. On a quand même évoqué la mort.
Au verset 13, il y a vraiment une opposition. Jésus avait parlé de sa mort.
Oui.
Je pense que c'est de la mort de Lazare.
Hmm?
C'est de laquelle mort? La mort de Jésus? Non, c'est la mort de Lazare.
Non, c'est la mort de Lazare.
Par les morts, les autres pensaient sommeil. Donc là, je trouve que ce verset est important parce que là, il y aura une vraie coupure qui se manifeste.
Oui, c'est le malentendu. Oui. C'est le sommet du malentendu, oui. Alors, comment ? Alors, ça va être juste le verset d'après. Mais on finit avec le 13 quand même. Et ça va être le verset 14. Donc, Jésus qui dit « Moi, je vais le sortir de l'hypnose ». Bon, vous ne m'avez pas dit quel était le motif de l'hypnose. Ok, bon, c'est pas grave. Ça va revenir après. Je vous referai le coup du placenta après. Taisez, je vous le referai. Les disciples dirent « Seigneur, s'il dort, il sera guéri ». Donc, dans la perspective des disciples... Il y a cette idée que Lazare a juste besoin de se reposer. Mais pour Jésus, c'est pas le repos qui va permettre, dans l'esprit de Jésus, c'est pas le repos qui va permettre à Lazare de s'en sortir. Donc, il ne s'agit pas de donner du temps au temps, par exemple, parce que ça n'existe pas. Il ne s'agit pas simplement de donner un repos en termes de passivité, en termes d'absence. Il y a quelque chose d'actif qui doit intervenir, un soin. Il y a un soin, il y a quelque chose qui doit se réaliser. Et donc, Jésus avait parlé de sa mort, ils crurent qu'il parlait, et là c'est encore l'hypnose. Hein? L'assoupissement, c'est, certains traduisent par la dormition. On utilise ça notamment pour Marie, la dormition de la Vierge, dans la théologie orthodoxe orientale. C'est au mois d'août. Il y a une église de la dormition à Jérusalem, très étonnante. Donc, là, il parle de l'hypnose, donc du sommeil de l'hypnose. Et le verset 14, Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Donc, là, il n'y a pas trop de doute. Sauf que, il faut s'entendre sur ce qui est mort. Parce que la mort désigne bien des choses. Quand quelqu'un dit c'est mort, c'est pas forcément que l'activité biologique a cessé. C'est que c'est fichu. Genre, ce contrôle, c'est mort, quoi. Le grec, tant pis, ce sera pour l'année prochaine. Non, il y a de la résurrection possible. Le fait qu'au départ, Jésus ait insisté sur la question de l'hypnose, du sommeil, et qu'ensuite il parle de mort, ce n'est pas forcément contradictoire. C'est peut-être une manière de dire que le sommeil, l'asthénie dont souffre Lazare, le rend comme mort. C'est-à-dire qu'il y a peut-être encore une activité cardiaque, voire cérébrale, et pour autant, c'est plus une vie. On pourrait dire c'est une mort sociale. Je pense qu'il vaut mieux, dans nos milieux, parler de mort spirituelle, par exemple. Mort à la vie, voilà. Ça me semble le mieux de tout. Il n'est plus en mesure d'être lui-même.
C'est coma.
Une sorte de coma, mais pas un coma au sens médical du terme. Une sorte d'état végétatif. Il y a des langages qui parlent de zombies. Zombies, c'est intéressant. Je ne sais pas si vous avez lu le livre de Philippe Roth, La Tâche. Il y a un prof qui se fait accuser d'avoir traité de quelqu'un de zombie. Parce que ça bouge, mais il ne se passe rien, quoi. C'est un peu comme la gelée anglaise, quoi. Ça bouge, mais c'est tout, quoi. Bon. Ça, c'est une possibilité. Simplement, il va falloir qu'on en dise un peu plus sur, quand même, ce dont souffre Lazare. Donc Jésus dit ouvertement « Lazare est mort ». Mais comment est-ce qu'il peut le savoir que Lazare est mort? On l'a juste averti qu'il était malade, qu'il était asthénique. C'est une question qui a été posée. Comment est-ce que Jésus est au courant qu'il est mort? Oui, s'il le connaît bien, comment il peut savoir qu'il est mort? Et donc? Ouais, d'accord. Et comment, alors, le fait qu'il sache qu'il peut être mort à la vie sociale, ça dit quand même une sensibilité de Jésus. C'est-à-dire qu'il est capable de percevoir l'état de quelqu'un et de voir vers quoi ça le mène. Mais qu'est-ce qui peut permettre à Jésus de dire qu'il est mort? Comment est-ce qu'il y a quelque chose d'inévitable, d'inéluctable dans la trajectoire de Lazare? Oui, comment il peut savoir qu'il n'y a pas eu de résurrection? Comment il peut savoir que c'est fichu?
Il n'y a aucune participation dans cette opportunité.
Eh bien, parce que... C'est l'hypothèse que je fais, c'est l'hypothèse plein sata. C'est... Parce que la seule chose qui aurait pu ressusciter Lazare n'est pas là, puisque c'est lui. Pourquoi? Parce que, en fait, Lazare était dépendant de Jésus. Et donc, Jésus sait que, ne revenant pas, eh ben, il va avoir sa crise de manque et que voilà, ça va être fatal. C'est une histoire psychologique. C'est une histoire... je dirais de rapport à l'autre. C'est une addiction. Et quand on disait il y a une pédagogie de Jésus, et je parlais de sevrage, il y a quelque chose qui est de cet ordre-là. C'est-à-dire que si Jésus peut être certain que Lazare est mort, c'est parce que la seule chose qui aurait pu maintenir Lazare, c'était la présence de Jésus. comme Jésus n'est pas là, eh ben il sait que voilà, il n'a pas eu sa dose. C'est ce qui permet d'expliquer que Jésus soit au courant. Parce que moi, je ne suis pas vraiment partisan de l'omniscience de Jésus, par télépathie, vous voyez. Je trouve ça plus intéressant de repérer là une sensibilité de Jésus au réel qui lui permet d'interpréter les signes, de donner sens et de pouvoir se projeter. Et au fond, la personne qui est sensible à la vie, c'est la personne qui peut anticiper, non pas parce qu'elle aurait lu la suite de l'histoire, mais parce qu'elle arrive à voir les coups qui peuvent se jouer. Et comme le joueur d'échecs qui connaît les combinaisons, voilà, il voit comment ça peut évoluer. Donc pour... Oui.
Pourquoi il dit « je me réjouis de... » parce que je n'étais pas là. Il se réjouit qu'il n'était pas là.
Oui.
Un peu plus loin.
Ça, c'est le côté un peu sadique, on pourrait se dire. Ouais, on va pas les louper, les 15 et 16. Mais pourquoi Lazare est mort, à mon avis, c'est l'absence de Jésus, c'est que Lazare n'est plus soutenu, n'est plus porté. Et Jésus qui ne vient pas à l'appel du verset 3, eh bien, ça crée un Lazare qui se sent délaissé. C'est un Lazare qui n'est plus certain de l'amour de Jésus. Vous vous souvenez, il y a une filéia entre les deux. Et si il sait que Jésus a été appelé, que Jésus ne vient pas, alors il peut avoir l'impression que l'amour est rompu.
Il est abandonné.
Qu'il est abandonné, comme le dit Jean-Claude. Et qu'il peut commencer à désespérer et se laisser mourir. Mais il n'est pas infantile, puisque c'est encore un fœtus. Mais ça va s'arranger. Est-ce que Lazare est plus âgé que Jésus? Sur le plan physiologique, oui. A priori, de ce que je me souviens de ce qu'écrit Françoise Dolto, il en est... Non, d'accord, je ne dis pas ce que dit Françoise Dolto. Mais il est dans un stade petit-petit. Petit-petit. Je ne dirai pas les mots qu'elle emploie. Désespéré. Ouais. Il est désespéré parce que son affection se trompe d'objet, en fait. Le travail de Jésus, ça va être de rétablir une vision juste par rapport à la vie, par rapport aux autres. Mais ça va être vrai, on va le voir pour Marthe et Marie aussi, qui elles-mêmes sont dans un rapport vicié. Oui, il va essayer de rétablir une relation saine. Il va essayer de rétablir une relation de sujet à sujet, alors que là, il est un objet dépendant, en fait.
Vous avez l'air d'assimiler une relation maître-disciple avec un disciple qui est désespéré de pouvoir son maître.
Il n'est pas disciple. Il est, comme vous le disiez, infantilisé. Non, un disciple est capable de dépasser le maître. Là, il est tout à fait incapable de dépasser le maître. Il n'est même pas fils d'eux. Le fils, c'est celui qui tue le père, qui dépasse le père, etc. Là, il est comme le fœtus, parce qu'il n'est pas capable de pouvoir transfigurer quoi que ce soit. Il est complètement dépendant. Dans un rapport d'addiction, on disait. Je veux bien pas prendre le terme de placenta, mais l'addiction. Oui. Oui. Mais le disciple n'est pas dépendant, en principe. Le vrai disciple, c'est celui qui est capable de transmettre. Et il est complètement incapable de transmettre notre Lazare. Il est juste un réceptacle. Vous voyez, c'est comme une sorte de vase. Alors que le disciple, c'est celui qui est capable d'être apôtre ensuite.
Il est immature.
Il est tout à fait immature, oui. Mais, ouais. Ouais, ouais, ok. Ouais, ouais, prenez... D'accord, ce que vous voulez, pas de problème. Enfin, vous voyez qu'il y a un petit souci, quoi. À partir de là, tout peut se négocier. Donc, on a ces versets effectivement problématiques, là, les 15-16. Oui.
Je viens de dire,
on va prendre le verset 15-16, tu me dis attends, et tu me mènes au verset 15, tu es un petit canaille ou ? Oui, c'est vrai quand je dis.
Jésus, verset 15, dit, bon, Lazare est mort, allons vers lui,
Et alors, le verset 16 est tout à fait curieux. Pourquoi est-ce que Thomas, qui est dit, ou le jumeau, dit aux autres disciples, bon, ben, allons-y, afin de mourir avec lui.
Oui.
Et ça veut dire
on va commencer par le verset 15. En n'allons pas trop vite. Oui, il y a une reprise de la glorification à travers quelque chose de tragique. On pourrait aussi rapporter cela à ce que dit Jésus dans la prière à la fin. Quand il dit au verset 42, « Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Et un peu plus haut, il y avait aussi au verset 40, Jésus qui lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» C'est-à-dire qu'il y a dans cet épisode l'idée selon laquelle ce qui va arriver doit être à la seule gloire de Dieu. Montrer que Jésus, par exemple, n'est pas une sorte de guérisseur. Et montrer qu'il n'y a rien de surnaturel dans ces affaires-là. Il y a simplement l'activité d'hommes et de femmes inspirée par ce qu'on a appelé des relations saines, inspiré par cette vision évangélique de la vie, en fait. Le projet rapporté à Dieu, en quelque sorte. Afin que la gloire de Dieu se manifeste, c'est une façon de dire qu'il n'y a pas de lieu au sein duquel Dieu serait exclu. Il n'y a pas de lieu odieux, en quelque sorte. Il n'y a pas de lieu au sein duquel on ne pourrait pas avoir un rapport théologique avec ce qui se passe. Donc le verset 15, la réjouissance, elle peut sembler assez perverse. Elle peut sembler perverse si on est dans cette idée que Lazare est mort sur le plan biologique et que la chose est irréversible. Elle est différente, cette sensation que nous pouvons avoir, si nous réalisons que Jésus a une autre perception de ce qui est arrivé à Lazare et que Jésus perçoit que Lazare va pouvoir accéder à un nouveau rapport à la réalité. Et donc, il y a là matière à se réjouir. Réjouissons-nous quand un alcoolique passe d'un état à un autre, d'un état d'alcoolique à un état de sevré, quoi. Et comment ça se passe ? Ben, en fait, on n'en sait rien. Il n'y a pas de mécanique de sortie des addictions. Mais quand ça arrive, ben, réjouissons-nous. Oui, oui. Oui, oui. Mais vous voyez, ce n'est pas un texte historique, donc ça ne veut pas dire que Jésus a effectivement été absent deux jours. Ça a peut-être duré quatre ans. Parce qu'on ne sait pas combien de temps ça a duré, l'affaire de Jésus. Mais... Non, ça a une question de culture universelle, en fait. C'est-à-dire que ça travaille vraiment sur les rapports humains. Et bon, il y a peut-être quelques cultures où ça ne peut pas jouer, mais ça fonctionne aussi bien dans la culture juive que la culture ici, qui est faite effectivement de Jérusalem et d'Athènes, vous me direz. Le verset 16, Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, « Allons aussi, afin de mourir avec lui. » À mourir avec qui ?
Avec Jésus.
Avec Jésus. Jésus va en Judée, il va se faire lapider. Et les disciples disent « Ok, ça va, moi aussi, j'en serai, ouais, ouais, j'assume, ok. » Le disciple, c'est celui qui fait un choix. Le disciple, c'est, vous voyez, il n'est pas complètement infantile, il prend ses responsabilités. Alors, c'est une sorte de folie de la part du Didyme, le jumeau. Mais il y a ça. Et puis d'un autre côté, il y a un petit côté jésuite chez Thomas. Parce qu'il semble obéir comme un cadavre. C'est-à-dire qu'il obéit comme un cadavre, c'est-à-dire que le maître dit « on y va les petits gars », ben il y va. C'est difficile de savoir s'il a vraiment fait le choix d'assumer la possible mort. Mais à mon avis, Thomas dit « mourons avec lui », c'est il dit aux autres disciples « mourons avec Jésus ». Très bien, prenons ce risque. Moi, à mon avis, il n'est pas jésuite, notre Thomas. Il est plutôt un disciple qui assume ses choix, etc. Et il trouve là matière à vivre. Ouais, ça serait vraiment bien qu'on y aille en dépit du danger pour faire quelque chose pour Lazare. Ouais. Ouais, ouais. Là, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Ouais, il y a un truc à jouer. Ouais.
C'est celui qui...
Ouais, c'est un bon petit gars, Thomas. Ouais. En plus, quand on voit après qu'il refuse de croire tout cru, tout cuit, ce que disent les disciples après la résurrection, je veux dire, il est magnifique, quoi. Il est sensationnel, notre Thomas. C'est un bon petit gars. C'est un protestant libéral. Confirmé à l'oratoire. Bien. Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Ben oui, c'est ce qu'il dit, le texte. Il est 4 jours dans le sépulcre. Ben, ça fait 4 jours qu'il a été enterré. Qu'est-ce qu'un sépulcre, au fait? C'est pas ce que dit le texte grec. Non, mais c'était pour que ceux qui tatillonnent un petit peu le grec aillent voir ce qui se passe, quoi. C'est un mnémeion. Mnémeion, vous le connaissez dans la fonction mémoriale, c'est le mnémésis, donc c'est la mémoire, c'est un mémorial. Voilà. Lazare est enfermé dans la mémoire, il est enfermé dans le passé en fait.
C'est pas un lieu physique alors.
Ça peut être un lieu physique, mais le texte dit c'est aussi autre chose qu'un lieu physique. Moi je veux bien, c'est le texte grec qui le dit, Françoise.
Oui,
on est dans le temps passé, donc on n'est plus dans le présent. On n'est plus dans le présent. On est enfermé dans le passé. Donc, vous voyez, il y a quelque chose qui s'est arrêté. L'histoire a cessé. L'histoire est figée pour Lazare. Il y avait une histoire d'asthénie, en fait. Et donc, ça fait 4 jours déjà qu'il n'est plus acteur de son histoire. Et donc, avant d'intervenir auprès de Lazare, il va y avoir des dialogues avec Marthe et Marie. Quatre jours, c'est aussi la radicalité de la mort. Hein. Je veux dire, on n'est plus dans une histoire de réanimation ou réanimation. Hein, il ne s'agira pas de souffler dans les poumons pour que ça reparte. 4 morts, c'est cuit. D'autant qu'après, on va entendre que ça commence à sentir. Donc, ouais, peut-être que c'était l'hiver, je ne sais pas, mais... Non, a priori, c'est le printemps, mais...
Ouais.
En tous les cas, c'est le moment où ça commence à se décomposer. Et donc, voilà, donc on a un Jésus qui est arrivé comme la cavalerie un peu trop tard. Et... Oui.
Parce qu'en fait, le sépulcre, c'est un lieu, la mémoire, c'est autre chose. Donc, en fait, pourquoi est-ce qu'on continue sur le développer l'idée d'une mort physique avec des odeurs?
Alors, je vous avais dit comment fonctionnait le mythe. Le mythe, ça fonctionne sur des éléments du réel conjugués avec des éléments symboliques. Donc, on a la mort qui à la fois désigne quelque chose de réel, mais qui est symbole en désignant un autre niveau d'existence. Et l'odeur, à mon avis, elle est de la même façon. À la fois, elle désigne la décomposition, donc il y a un côté symbolique, et en même temps, il va y avoir un côté réel. C'est qu'à mon avis, Ils sont vraiment mauvais, Lazare. Mais on va voir pourquoi.
Mais au verset 38, on dit que c'était une caverne et une pierre était posée dessus.
Ouais, ouais.
Donc on parle quand même de caverne.
Oui, ouais, d'accord. Et donc dans Platon, les gens qui sont dans la caverne sont vraiment dans une caverne. Ça ne désigne pas une réalité qui serait qu'on n'a qu'un petit bout de la réalité. Bon, à voir. Alors, on est au verset donc, 18, donc Béthanie près de Jérusalem, 15 stades environ. Beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère.
3 kilomètres.
Et le verset 20, lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise dans la maison. Donc vous voyez, on n'est pas dans la même relation. Là, il y a matière à développer la psychologie des deux. Bien. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Comment vous le comprenez ça, si Jésus n'est pas à Placeta ? Pardon ? Ouais, il serait pas. Ouais. Il aurait continué à être au bénéfice de la présence de Jésus. Bien. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Alors, là, c'est anisthémie. C'est un des deux verbes pour parler de la résurrection. C'est le fait d'être redressé, debout. Ton frère ressuscitera, donc il sera anisthémie. Je sais, lui répondit Marthe, qui va réciter son catéchisme, qu'il ressuscitera la résurrection au dernier jour, pour le jugement dernier. Enfin, pas le jugement dernier au sens d'ultime, mais à la fin des temps. C'est l'escatone de la fin, là, quand ça commence à être long. Là. Et quiconque... alors, Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Donc, cesse donc de te projeter vers cette idée d'un jugement final, reviens dans le présent, fais pas l'inverse de ton frère qui lui est coincé dans le passé, ne sois pas coincé dans le futur, réinvestis le présent. Retour à la vie, pitié.
C'est le
nœud
du texte.
Oui. C'est-à-dire que là où il y a des verbes au passé, il y a des verbes au futur, Jésus, il met du présent. Je suis, Amy. Oui. Moi, je suis. Et vous voyez, dans quelque chose qui est en train de devenir très chaotique au sein de cette fratrie, Jésus pose un point de stabilité qui est du présent. Il n'y a pas de nostalgie, il n'y a pas de désespoir, parce que le présent est investi de toute la présence. Voilà. L'être est au présent. Donc, je suis la résurrection et la vie. Donc, je suis Anastasis. Anastasia, comme prénom pour une fille, c'est pas mal. Même si parfois, elle pleure en vain. Et donc, la vie, Zoé. C'est pas le bios, c'est Zoé. Hein. Celui qui croit en moi, et donc, dans ce cas-là, celui qui croit en moi, il va vivre. Quand même, il serait mort. Hein? Et là, c'est encore la même racine par rapport à la mort. Donc, il y a effectivement une tension entre mort et vie. On peut être vivant, quoique mort. Voilà. Donc, là, il y a effectivement aussi un nœud à comprendre. Et donc, c'est pour ça que je vous dis que la mort, ça désigne un niveau de vie qui n'est pas forcément celui que l'on traite sur le plan médical. Quand bien même vous pourriez avoir subi une asthénie radicale, eh bien, la vie n'a pas dit son dernier mot pour vous. Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. » Donc ça, c'est la christologie, la sotériologie classique de l'évangile de Jean. Hein, c'est le condensé de la Christologie joannique. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla, puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, le maître est ici, il te demande. Eh bien voilà, disciple qui devient apôtre. Elle est passée à autre chose. Elle est capable de communiquer. Ouais, elle s'en va, et elle établit une relation avec Marie. Vous voyez, elle n'est pas figée. Voilà. Et il y a une dynamique qui est engagée par le dialogue que Jésus vient de susciter. Et quand je vous disais qu'il y avait un petit problème entre Marie et Marthe, eh bien, il est là le petit problème. C'est que dès que Marie eut tout entendu, elle se leva. Donc, c'est intéressant parce qu'elle commence déjà à ressusciter. En fait, elle se leva, c'est Egeirene. Donc, elle se réveilla. Premier terme de la résurrection. Promptement, elle alla vers lui. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vu se lever... Ben, ce n'est pas le même lever, là c'est anisthémie, le deuxième verbe de la résurrection. Il y a un verbe où elle se réveille, donc elle ressuscite, et puis un autre verbe où ce sont des témoins qui constatent qu'elle est ressuscitée, et c'est anisthémie. Donc, c'est là que se joue la résurrection en fait, pas avec Lazare, c'est avec Marie, il y a Marthe et Marie. Mais ce n'est pas encore complètement gagné. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Donc, on est encore dans le même rapport de « on sait bien que c'est parce que tu étais absent qu'il ne l'a pas supporté, en quelque sorte. » C'est du copier-coller. C'est-à-dire que Marthe et Marie sont en effet miroirs. Vous voyez ? Il y a zéro distance critique entre les deux. C'est-à-dire que c'était le cercle hyper vicieux dans la maisonnée. Vous voyez, c'est la logique du pari au même. Il n'y a aucune altérité, pas de souffle, c'est l'air vicié, c'est un autre tombeau. Et il n'y a pas d'espérance possible, parce qu'il n'y a pas de fissure, il n'y a pas de fracture, il n'y a rien d'autre à voir que le désespoir. Marthe et Marie, c'est l'enfer, quoi. C'est le vrai huis clos. Là, l'enfer, c'est l'autre, quoi. Sartre avait une autre... Quand il dit ça, il ne le pense pas, c'est l'ironie chez Sartre. Mais voilà, on a un huis clos entre Marthe et Marie. Et l'enfer, c'est l'autre, parce que l'autre ne fait que me renvoyer à mon angoisse. Et donc, ça s'engendre. Voilà. La seule production, c'est la production du désespoir. Et Jésus, lui, vient apporter une césure là-dedans. Mais Marthe a commencé à ressusciter deux fois Marie. Mais Marie, elle n'est pas encore complètement soignée. Parce qu'elle est encore dans la répétition de ce qu'elle a... De ce qui se, comment on appelle ça? Se sont bourrés le mou, c'est ça? L'expression? Eh bien, lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds. Donc ça, c'est son habitude. Hein, elle tombe toujours aux pieds de Jésus, Marie. Et elle lui sort ce que l'autre a déjà sorti. Jésus, la voyant pleurer, « Ah, il y a quelque chose, il y a une fissure. Il y a quelque chose de personnel. » Elle pleure. Elle et les Juifs qui étaient venus avec elle. Donc Jésus frémit en son esprit et il fut tout ému. Il frissonne, Jésus. Vous voyez, quelque chose là.
Oui, mais alors est-ce que c'est parce que ça vient de Marie, puisqu'ils ont une relation singulière?
Il y a Jésus qui a une relation singulière, mais il y a fort à parier que les trois ont la même relation avec Jésus. Parce que donc, c'est la philéia, donc c'est la réciprocité. Et on voit que Marthe et Marie sont dans un effet miroir. Donc, dire qu'il y a une relation singulière pour Marie, ce n'est pas évident, parce que, visiblement, c'est copie conforme avec Marthe. Mais là, il y a de la singularité qui arrive pour chacun. Chacun va redevenir un individu. Va cesser d'être le clone de l'autre. Ouais. Chacun redevient humain. Chacun accède à son humanité. Il y a une venue au monde, quoi.
Une prise en charge.
Il y a une prise en charge responsable. Vous savez, c'est toute la question de la diaconie. Il ne s'agit pas de rendre l'autre dépendant de mon bon vouloir et de ma miséricorde. Il ne s'agit pas de rendre l'autre dépendant de ma charité. Il s'agit de faire en sorte que l'autre puisse devenir autonome, responsable et solidaire. Vous savez, c'est là où arrête de donner des poissons, apprends-lui à pêcher. Mais de façon générale, c'est d'ailleurs tout le sens de la clairière. C'est que chacun puisse devenir le propre rédacteur de sa narration, puisse être responsable et pas en permanence recevoir ce qui lui permet de survivre. Non, il ne s'agit pas de survivre, il s'agit de vivre. Donc Jésus la voyant pleurer, il pleure aussi. Jésus pleura.
Sarah qu'on voit.
Oui. Jésus pleurer. Donc Jésus pleure. Sur quoi les Juifs dirent « Voyez comme il l'aimait ». Et quelques-uns d'entre eux dirent « Lui qui a ouvert les yeux des aveugles, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point ?» Ben non, il ne pouvait pas en fait. Il ne pouvait pas. Voyez, c'est un peu cette idée que... Ouais, peut-être que je vous ramène au verset 26. « Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» C'est une mauvaise traduction. Parce que le texte grec dit « Celui, quiconque vit et croit en moi, disons, ne mourra pas dans l'éternité. » C'est-à-dire qu'il n'est pas mort pour la vie éternelle. C'est-à-dire qu'il ne va pas mourir. Oui, bien sûr qu'on va mourir. Mais au regard de l'éternité, au regard de la vie éternelle, donc de cette qualité d'existence, non, 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 il n'y a pas de mort qui tienne. Donc ce n'est pas l'immortalité. Hein, la vie éternelle, ce n'est pas l'immortalité. Eh bien là, pareil. Donc, on veut faire de Jésus un guérisseur de maladies, et ce n'est pas un guérisseur de maladies. Et maintenant, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire face à la décomposition? Alors, c'est le moment maintenant de se poser la question de ces petits détails matériels. Il sent. Donc, est-ce que ça signifie qu'on est retourné dans du pur réel, dans du pur matériel? Et est-ce qu'on a quitté le symbolique? Ben, oui et non. Sauf que, à mon avis, le texte nous envoie à un ailleurs. Donc, on a un Jésus, un Lazare asthénique, un Lazare désespéré qui s'est laissé mourir et qui est comme mort, en fait. Qui est comme mort. Et bien, en fait, il se laisse aller, notre Lazare. Eh bien, je peux vous le garantir, quelqu'un qui se laisse aller, il sent, en fait. Ouais, il sent. Il sent la mort, quoi. Et pas simplement parce que c'est la chair qui se décomposerait. Oui, la chair est sale, mais tout est sale, en fait. Ça, c'est le début de la putréfaction, dans une certaine mesure. On pourrait se dire, au fond, qu'est-ce qui permet à l'homme de s'arracher à la mort? Ben, c'est notamment le fait qu'il se lave et qu'il lave ses vêtements. C'est une façon de s'arracher à la mort, sur le plan culturel, en disant « Non, je refuse le chaos. » Se laver, c'est mettre de l'ordre dans le chaos de la nature. C'est très naturel, en fait, d'être sale. Hein. Ce qui n'est pas naturel, c'est d'être propre. Hein. Ah, mais c'est vrai. Mais l'humanité, c'est culturel, c'est pas naturel. Pardon ? Ouais. Exactement. Exactement. Et donc, le fait, et au fond, on est face, enfin, Jésus est face à une situation de désorganisation totale. On pourrait dire, il y a ça, peut-être que aussi, voilà, on ne range plus, enfin, et c'est plus rangé à l'intérieur de la tête non plus. Eh bien, on est à la fois sur l'ordre du matériel, c'est-à-dire après tout, ça sent, ouais, ça sent. Mais on est aussi dans le registre du symbolique, c'est que ce n'est qu'un symptôme, cette histoire. Ça renvoie à un désordre plus grand, ou à quelque chose qui est effectivement mort. Donc, on a le verset 38, où il va falloir dégager le lithos, la pierre. Donc, il y a une pierre qui est effectivement... posé devant le tombeau. Et globalement, vous vous souviendrez dans quelques jours que ça va arriver à Jésus aussi, hein, cette histoire de pierre. Le lithos, ici, a, à mon avis, deux fonctions possibles. Il y a d'abord le fait qu'il y ait ça désigne la frontière. Ça désigne la frontière comme dans Josué 5, quand on passe le Jourdain pour entrer en terre promise, la première chose qu'on fait, c'est qu'on prend des pierres, on les met dans le Jourdain. Et puis, dans le Jourdain, on prend des pierres, on les met à Gilgal. C'est une façon... Ben, les pierres, ça désigne la limite du territoire. Dans le livre du Deutéronome, voilà, on pose comme cela parfois des limites pour les champs, ou des fois, on enterre des sandales, des choses comme ça. Le lithos, c'est aussi ce qui, dans le Pasteur d'Hermas, qui a failli être un livre biblique, est utilisé pour fabriquer une tour du peuple de Dieu. Et chaque personne est une pierre vivante. d'un lithos. Donc le lithos, c'est ce qui peut désigner comme cela la limite, et donc c'est ce qui fait obstacle. Et symboliquement, on se dit que ce n'est pas un lieu pour la vie, le sépulcre. Eh bien, Jésus brise cette limite-là. Il fait retirer le lithos. Il fait voler en éclats les frontières. Il doit y avoir des formules plus poétiques encore. Voler en éclats, c'est quand même pas mal déjà, mais je pense que, voilà. Bon, voler en éclats et limite, c'est mieux. Donc, une fois de plus, il n'y a pas de lieu odieux. Et dans une certaine mesure, quand dans le symbole des apôtres, on dit que Jésus est descendu aux enfers, ça veut dire qu'il n'y a pas un lieu qui ne recevrait l'attention du divin. Symboliquement, il n'y a pas un endroit, fût-ce la maison de Marthe et Marie qui est un vrai enfer, fût-ce le passé de Lazare qui est un vrai enfer, que Jésus, que le Christ ne saurait visiter. Il n'y a pas de situation désespérée, pour le dire plus clairement. Voilà. Ce n'est pas tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Ce n'est pas, c'est pas non plus une méthode couée, on va y arriver. Voilà. Non, non, c'est que factuellement...
Ouais. Sauf quand même que sa pédagogie, c'est quand même pas tout à fait ça, parce que ce n'est pas lui qui fait tout ça. Il demande d'ôter la pierre.
Ah oui.
C'est moi qui l'enlève, la pierre. C'est pas moi, Jésus qui l'enlève.
Mais il rend possible ça. Il l'autorise. C'est son autorité.
Oui. Ou un intermédiaire, ou autorise la personne.
Ah, absolument. Oui, il ne le fait pas lui-même, mais il fait que ça arrive.
Et il veut que les gens agissent.
Au fond, le Christ, c'est ça. Ce n'est pas celui qui se retrousse ses manches. Il ne fait pas à notre place. Mais il fait en sorte que ça advienne. Et ensuite, il y a une prière publique qui n'est pas une prière, c'est une prédication. D'ailleurs, lui-même le dit. Voilà. Si je cause, si je prie comme ça, c'est à cause de la foule qui m'entoure, c'est pour qu'elle entende. C'est pour qu'elle entende « Soli Deo Gloria ». C'est pour qu'elle arrête de se fixer sur moi. Pitié. Le problème de Lazare, qu'il était attaché à Jésus au lieu d'être attaché au Christ. C'est trompé. Il y a une sorte d'idolâtrie. En fait, ça relève du narcissisme, cette affaire. Bon. Le Christ, c'est ce qui échappe en permanence. C'est ce qui désigne l'absence, ce qui désigne le creux, où du coup la vie est possible, parce que du coup ça peut s'épanouir. Je prends un exemple au hasard, un fœtus qui resterait dans le ventre de sa mère, ben, il est condamné à ne pas vivre. Il ne peut pas rester toute sa vie dans le ventre de sa mère, au sens physique du terme, mais au sens symbolique non plus. Il ne peut pas rester dans les jupes de sa mère. C'est pas possible. Bon, une fille a le droit de rester dans les pantalons de son père, je trouve. Hein, moi, je trouve que ça, c'est possible. Ça, je crois que c'est autorisé. Mais le fils n'a pas le droit de rester dans les jupes de sa mère. Bon. Ayant dit cela, il crée d'une voix forte, « Lazare, sort !» Lazare, sort. Donc, vous voyez, il y a du ex. Il y a du ex. Il va sortir de son hypnose. Il était hypnotisé par Jésus. Il était fasciné par Jésus. Mais il faut qu'il sorte de ça. Il faut qu'il sorte de cette mémoire. Il faut qu'il sorte de... Voilà, vous trouverez les mots qui vont pour désigner cette réalité quand on est obsédé par quelque chose. Voilà. Et parfois, c'est par ses peurs. Voilà, on est donc enfermé dans quelque chose. Donc, sort. Et là, ça devient particulièrement intéressant. Le mort sorti, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Vous imaginez ça, la scène? Quelqu'un qui est ficelé comme ça et qui sort. Qu'est-ce que vous imaginez? Que Lazare sort comme s'il était dans un sac de pommes de terre, comme ça, en sautillant? Ben non, on est dans le registre du symbolique. On ne peut pas marcher quand on est lié comme ça. Donc c'est bien que les ligatures désignent quelque chose de symbolique et que sa mort elle-même désigne quelque chose de symbolique. Bon, ça, c'était au cas où on aurait encore des doutes sur la non-matérialité des faits. Donc, déliez-le, il n'est pas encore délié. De même que Marie était ressuscitée, mais elle était encore dans sa répétition de ses formules de catéchisme. Et donc, là, voilà, il est sorti de cet état de léthargie, disons, mais il doit encore être délié de toutes ces entraves qui continuent à le ramener à son passé. Voilà, il s'agit qu'il soit un born again, un né de nouveau. Il faut qu'il cesse d'être plein Satan. Bon, il y a un appel à la vie. Vous voyez, l'appel à la vie, c'est le exo. Exo, c'est le terme. Hein. Exo, hors d'eux. L'appel à la vie, c'est ça. C'est sortez de vos habitudes, de votre routine, de votre banalité. Sortez de la banalité. Il rend à la responsabilité. Il rend à la responsabilité. Il libère. La liberté et la responsabilité, c'est les deux faces d'une même pièce. Déliez-le et laissez-le aller. Afiemi upagain. Donc, Afiemi, c'est presque pardonner aussi. Délier, pardonner, c'est la même famille, tout ça. Lusate, luo, délier. Il y a une sortie, alors, ça peut être la sortie d'Égypte, la maison de servitude. Ça peut être la délivrance. Est-ce qu'on parle de délivrance ? C'est pas dans les maternités ? Je sais plus. Oh, je sais plus. C'est quoi qu'on délivre ? Ah, mais c'est pas Satan ! Oui, dites-moi.
Pourquoi à la fin ils disent déliez-le et laissez-le aller ? Parce que déliez-le, ça veut dire que c'est encore quelqu'un d'extérieur qui doit l'aider.
Oui.
C'est-à-dire
ouais.
qu'il n'est pas vraiment autonome.
Non, il ne l'est pas encore. Non, non, c'est vrai, il n'est pas encore autonome. Il est capable. Il est capable maintenant d'être autonome. Simplement, on est tous d'accord, pour sortir d'une dépression, il faut qu'il y ait quelqu'un de l'extérieur qui nous aide. Pour sortir de nos addictions, il faut quelqu'un de l'extérieur qui nous aide. Pour tout, il faut qu'il y ait quelqu'un de l'extérieur. Ouais, c'est plus une coopération, là. C'est pas en termes de succession. Mais en fait, le divin, il est là. C'est dans la relation « je tue ». C'est-à-dire que seul, je suis un homme mort. Qu'est-ce que révèle Jésus ici ? C'est que l'absence du corps ne dit pas la solitude de la personne. L'absence du corps de l'autre ne dit pas la mort de l'autre, ne dit pas que je suis esselé, que je suis rejeté ou quoi que ce soit. L'autre n'est pas devant mes yeux, d'accord, mais ouvre les yeux sur le fait qu'il est quand même présent. Et après tout, ça peut aussi valoir pour la mort physique. Quelqu'un qui est mort, quand on vit le deuil de quelqu'un qui est mort cliniquement ce coup-ci, ben, effectivement, le corps n'est plus là. Est-ce que ça veut dire que tout ce qui a été vécu disparaît ? Est-ce que tout ce qui a été injecté, tout ce qui a été créé, projeté, entrepris, tout l'amour qui a été vécu, est-ce que pour autant ça disparaît ? Non, 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 non. Et on pourrait considérer que c'est une métaphore qui ne vaut pas beaucoup, mais dire que c'est comme une sève qui continue à couler dans nos veines, ben, moi je trouve ça a du sens. Ce que l'autre a injecté en nous continue à produire du fruit. Oui, c'est ce que vous disiez, oui. Exactement, oui, c'est important peut-être de le souligner, je ne le fais pas assez, mais ce n'est pas Jésus qui agit, c'est Jésus qui autorise les uns et les autres à agir et donc à être responsables. On le dit souvent dans nos prières, Dieu seul peut faire des miracles, mais encore faut-il apporter 5 pains et 2 poissons, oui. Et on dit bien que voilà, ce n'est pas Jésus-Christ qui agit pour nous, et que ce n'est pas Dieu qui agit à notre place. Il nous rend capables. Oui, c'est ça. Voilà. Si vous avez d'autres questions, bah, vous pourrez me dire. Et puis, la fois prochaine, on se retrouve, et ben, on commence les derniers discours de Jésus, avec, je crois, l'amour face à la haine. Donc, c'est le début de la fin. Merci beaucoup.